Nous voulons te dire merci pour ce temps merveilleux, ce temps extraordinaire que nous venons d'avoir, Seigneur, en ta présence, devant ton trône. En nous attirant à toi, tu nous as donné la capacité, Seigneur, de nous approcher de toi avec assurance, avec une foi ferme. Seigneur, tu nous as donné la force en arrivant devant ta face de nous prosterner, ô Dieu, pour te rendre ce qui t'est dû, à savoir la louange, l'honneur, la gloire, la majesté, la reconnaissance. Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à tous nos chants et cantiques. Tout cela est monté vers toi comme, Seigneur, une offrande d'une agréable odeur. Tout cela, ô Dieu, a été accueilli, Seigneur, par toi, le Dieu qui est notre Père en Jésus-Christ. Merci pour tout. Quel bonheur, Seigneur, quel privilège de pouvoir compter sur toi, de savoir que tu es toujours là pour rencontrer nos besoins, quels qu'ils soient. Oui, tu es bon, comme nous venons de le chanter. Et ta parole est vraie. Seigneur, ta parole est efficace. Ta parole est puissante. Tout ce qui sort de ta bouche est porteur de vie, est porteur de puissance, est porteur de salut et de guérison. Oh, alléluia. Seigneur, ta parole est puissante, assez puissante, pour réduire à néant tout ce qui cherche à nous opprimer, toutes ces situations adverses. Ta parole est puissante, ô Dieu, pour nous accorder la victoire sur la tentation, pour nous fortifier face à tous ces ouragans, Seigneur, immorales, ces ouragans d'idolâtrie qui secouent le monde, face à tout ce courant philosophique d'obédience et d'inspiration satano-démoniaque. Oui, tu nous donnes la force de résister et de ne pas nous laisser happer, Seigneur, par toutes ces idéologies dont l'objectif ultime, c'est d'égarer l'homme, Seigneur, et de le priver de cette grâce extraordinaire de te connaître et de jouir d'une relation existentielle et vivante avec toi. Merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Bien, nous allons continuer avec notre voyage à travers le Nouveau Testament, à la rencontre du Seigneur au travers du récit de Pierre qui a marché sur les eaux agitées de la mer. Et si tout va bien, nous allons donc terminer avec cette série d'enseignements qui aura duré presque 2 mois, parce qu'aujourd'hui c'est donc le 8e épisode et qui est peut-être le dernier. Alléluia. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ont pu bénéficier de cet enseignement pour comprendre, mes amis, la nécessité d'avoir une communion intime avec le Seigneur, car c'est au travers de cette communion qu'il finit par nous donner, nous accorder sa parole, par nous faire connaître son réma, et c'est aussi par sa grâce que nous pouvons recevoir ce réma, et voir ce réma susciter en nous, engendrer en nous, générer en nous une foi qui conduit ou qui nous fait entrer dans l'univers du surnaturel. Que Dieu soit béni. Amen. La parole de Dieu, le Logos ou le Réma, comme je le disais, 8e épisode de cette série qui a commencé depuis le mois de juillet. Nous allons relire nos 2 passages de la fois dernière, à savoir Matthieu 14, 22 à 34, et puis Hébreux 12, les 2 premiers versets. Nous lisons ensuite, il obligea, donc le Seigneur obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Attendez, je vais changer un peu comme ça je suis plus à l'aise. Voilà, comme je suis droitier. Il obligea donc les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris, évidemment de panique, de frayeur. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia. Acclamons cette confession. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Hébreux 12, les deux premiers versets, nous donc aussi, nous dit la parole, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace ou qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve ou la compétition littéralement qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Gloire au Seigneur, alléluia. La parole de Dieu, le Réma, plutôt le Logos et le Réma. Nous sommes toujours dans ce registre du Réma, de cette parole qui sort de la bouche du Seigneur et qui nous est adressée personnellement, de cette parole que le Seigneur nous envoie dans une situation bien particulière, spécifique, et par rapport à une circonstance particulière qui nous environne. Lorsque nous ouvrons notre cœur, nous réagissons de manière positive à ce Réma, eh bien celui-ci finit par susciter en nous la foi, cette foi dont nous avons tant besoin pour expérimenter le surnaturel, pour entrer dans l'univers du miracle. Alléluia. Car avec Jésus, tout est possible. Amen. Et gloire à Dieu. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière à la première leçon par rapport à cette histoire de Pierre, histoire qui tourne autour de son expérience merveilleuse, de son expérience extraordinaire, celle donc de marcher sur les eaux agitées, les eaux d'une mer en furie, en proie à des vents de plus en plus forts. Cette histoire s'articule autour d'une vérité, et c'est sur cette vérité que j'ai essayé, autant que faire se peut, d'attirer votre attention, à savoir la foi. La foi. Et nous avons donc tiré une première leçon. Une première leçon à propos de la foi qui nous fait entrer dans le miracle. À propos de la foi qui nous permet d'expérimenter la puissance surnaturelle de Jésus. Mes amis, nous avons donc dit que croire dans ce cas précis, dans ce cas de figure, ce n'est pas avoir foi dans notre foi en Dieu. Ce n'est pas avoir foi dans notre foi en Christ. Croire en vue d'expérimenter le miracle, croire en vue d'expérimenter la puissance de Jésus, en vue d'affronter les défis et les luttes de la vie, eh bien c'est avoir une confiance totale et entière dans la puissance des paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Alléluia. Sa parole, mes amis, est créatrice. Sa parole est puissante. Sa parole est efficace. Elle est assez puissante pour anéantir n'importe quelle force maléfique, pour arrêter n'importe quelle tempête qui souffle dans notre vie. Sa force, ou du moins, sa parole est puissante pour anéantir n'importe quelle pathologie dans notre corps. n'importe quelle situation adverse, le réma. En réagissant positivement à la parole du Seigneur, parole que le Seigneur lui a donnée en réponse à sa demande, à sa requête, eh bien l'apôtre Pierre s'est laissé porter par la parole du Christ, celle qui lui a envoyé et qui l'a ordonné de venir et de marcher sur les eaux de la mer. C'est donc la puissance du réma du Christ qui a transformé ces eaux liquides et agitées de la mer de Galilée en un tapis dur, permettant ainsi, et ce de manière miraculeuse, à Pierre de marcher et d'aller vers le Seigneur. Il a fait quelques pas formidables. Et pendant ce temps, mes amis, il a expérimenté quelque chose qu'aucun homme sur cette terre, en tout cas d'après la parole de Dieu, aucun héros de la foi n'a pu expérimenter. Pendant un temps, cet homme, mes amis, est allé à l'encontre des lois naturelles. Pendant un temps, cet homme a expérimenté la puissance de la parole du Christ. Encore une fois, cette parole n'a pas suscité, a suscité la foi, certes, mais cette foi n'a pas transformé, métamorphosé Pierre en un être surnaturel, pas du tout. En obéissant à cette parole, comme nous l'avons vu, en obéissant et en réagissant selon ce réma, le Seigneur va honorer la foi de Pierre en ordonnant à l'eau de le porter. Oh, alléluia. Alléluia. Donc, la foi n'est pas quelque chose, une bouée. Le Seigneur nous jette et lui reste les bras croisés. Et nous montons sur cette bouée et puis nous nous laissons porter par une eau agitée. Non, il est l'initiateur de la foi. C'est lui qui suscite la foi par son réma, mais il est aussi celui qui amène ce réma à son accomplissement. Alléluia. Car le but, ce n'était pas tant, mes amis, de permettre à Pierre d'offrir un spectacle merveilleux à ses amis qui étaient restés dans la barque, mais le but, c'était lui permettre d'expérimenter la puissance du Christ en allant vers le Christ. Tout véritable miracle doit nous conduire au Seigneur. Alléluia. Comme nous allons le voir. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec la deuxième leçon à propos toujours de l'expérience de Pierre. Le Seigneur lui dit, viens. Quand tu lui dis, viens, eh bien, tout est en agitation autour de la barque dans laquelle se trouvent les disciples du Christ. Quand le Seigneur s'adresse à Pierre en particulier et de manière spécifique, eh bien, la barque tangue. Il y a de plus en plus de vagues qui se jettent contre la barque. Le vent souffle de plus en plus fort, en plus un vent contraire. Et c'est dans ce contexte, mes amis, du déchaînement des éléments de la nature que le Seigneur répond à Pierre en lui disant, « Pierre, viens !» Il lui envoie sa parole. C'est une parole qui sort de la bouche du Christ. Elle est donc appelée à accomplir ce pourquoi elle est sortie. Quand il dit « Sois guéri » et que tu reçois cette parole, eh bien elle finira par devenir une guérison dans ton corps. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, les paroles de Jésus, les rémas du Seigneur sont plus vraies, plus fortes, plus puissantes que tout ce que nous voyons, que tout ce que nous ressentons et tout ce que nous pouvons nous imaginer. Nous devons apprendre, mes amis, à accepter la parole du Seigneur sans nous laisser effrayer par les circonstances adverses. Quand lui a dit, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, eh bien obéissons. Et en obéissant, nous nous laisserons porter par cette parole puissante et nous finirons par expérimenter sa puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous trouvons donc, à travers tous les évangiles, beaucoup de témoignages à propos des hommes et des femmes qui, à un certain moment de leur vie, alors qu'ils étaient dans un besoin particulier, ont eu la grâce et le privilège de croiser le chemin du Seigneur, ou mieux, ils ont vu le Seigneur croiser leur route. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé. De cette rencontre, leurs besoins, quels que fussent, ça c'est le subjonctif passé, je vous rafraîchis un peu la mémoire, quels que fussent leurs préoccupations, leurs besoins, leurs attentes, ces gens ont fini par expérimenter le miracle du Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, ces hommes et ces femmes, à travers tous les évangiles, ont fini par expérimenter la véracité et la puissance des paroles sorties de la bouche de Jésus. Mes amis, Jésus n'a pas changé. Jésus est le même encore aujourd'hui. Sa parole est encore la même aujourd'hui, avec la même efficacité qu'il y a 2000 ans. Sa parole est encore vraie, nous l'avons chantée. Mes amis, apprenons à faire confiance au Seigneur. Ne nous laissons pas conduire, mes amis, par nos instincts, par la perception naturelle que nous avons des événements. Mais ayons nos regards fixés sur Jésus. Ayons nos yeux rivés sur lui. Laissons-nous porter par sa parole. S'il nous a parlé, mes amis, alors recevons cette parole avec confiance. Et lui qui est l'initiateur de la foi, à partir de cette parole, de ce rhéma, va donc susciter la foi. Cette foi qui nous fera entrer dans le domaine des miracles. Alléluia. Et gloire à Dieu. Prenons quelques cas très rapidement, qui sont de véritables illustrations de tout ce que nous sommes en train de dire à propos du rhéma. Le cas de Bartimée. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Vous pouvez la trouver dans Marc chapitre 10. Et bien, cet homme était un aveugle. Avec tout ce que cela impliquait, ou avec tout ce que cela avait pour conséquence. C'était un aveugle, mes amis. Vous allez mettre ça après, s'il vous plaît. C'était un aveugle. Un aveugle privé, donc, de vue. Et par conséquent, c'était un homme qui dépendait totalement, entièrement des autres. Dans une société où il n'y avait pas de sécurité sociale, eh bien, la seule sécurité qu'il avait, c'est d'avoir une famille qui puisse l'aider, qui puisse lui permettre de se déplacer en le tenant par la main. Et comme il ne pouvait pas travailler étant aveugle, il vivait de la mendicité. Chaque matin, j'imagine, les gens de sa famille le prenaient par la main et l'amenaient au bord de la route où les gens passaient. Ainsi, il tendait la main, quelqu'un qui était ému par son besoin, ben, lui déposait quelque chose dans sa main. Jusqu'au jour où cet homme, en tant que Jésus passait par là. Profitez de la présence du Seigneur ce matin pour vous jeter dans ses bras puissants. Cet homme, en tant que Jésus est en train de passer par là, quand on le rassure que c'est vraiment Jésus de Nazareth, il avait déjà entendu pas mal de choses à propos de Jésus. Il avait entendu des gens parler combien Jésus était puissant de libérer les malades de toute maladie. Que tous ceux qui l'approchaient, peu importe leurs besoins, finissaient toujours par être satisfaits. Tous voyaient leurs besoins être rencontrés. Alors ils se mettent à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus est touché, malgré les gens qui étaient autour de lui. Vous voyez, parce qu'il passait par Jéricho, le Seigneur entend le cri de ces malheureux, de ces nécessiteux, de se laisser pour compte. Il entend le cri de quelqu'un complètement, mes amis, paupérisé, qui pouvait être considéré par certaines personnes comme étant une sorte de vampire, des sangsues, des parasites, vous voyez, de la société. Il s'arrête et il demande à ce qu'on appelle cet aveugle. On va trouver l'aveugle, on lui dit, voilà, ton cri a été entendu par le Seigneur de gloire. Tu as crié, fils de David, c'est un des titres du Messie. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Eh bien, il vient de s'arrêter pour toi. Alléluia. Il vient de s'arrêter pour toi. Mes amis, Jésus a du temps pour chacun de nous. Il ne regarde pas notre condition sociale. Il ne regarde pas notre condition physique. Il ne regarde pas à l'état de notre cerveau. Pas du tout. Il nous aime de la même manière. Personne ne peut prétendre être aimé plus que les autres. Mais malheureusement, certains, dans leur manière d'agir, donnent l'impression que eux, ils sont plus aimés par Jésus que les autres. Faux! Dieu ne fait point exception des personnes. Il nous aime tous du même amour. Celle qui nous a témoigné à Golgotha par sa mort, et gloire à Dieu. Quand Bartimée entend, il était ainsi pauvre malheureux, il était ainsi pauvre aveugle, indigent. Quand il entend, quand on lui dit qu'enfin le Seigneur a entendu ton cri, il te demande d'aller vers lui, eh bien il prend le manteau, il s'en débarrasse, il se lève et va vers Jésus. Quand il arrive en face du Seigneur, Jésus prend la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Le Seigneur voit très bien qu'il est aveugle. Hein? Aujourd'hui, les aveugles ont des lunettes, nos sociétés ont beaucoup évolué, ils ont des cannes, quelqu'un peut avoir des lunettes fumées, s'asseoir et ne pas vous donner l'impression que c'est un malvoyant ou c'est un aveugle. Mais à l'époque, il n'y avait pas de lunettes fumées. On ne pouvait pas cacher sa cécité, voyez-vous. Eh bien, il lui pose la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» La réaction, « Rabouni, répond l'aveugle, que je recouvre la vue. » Oh, alléluia. Il aurait pu se dire, « Bon, il a peut-être guéri certains, mais moi, ici, aveugle, je ne pense pas. » Voyez-vous. Mais il a eu ce courage, il a eu cette détermination, cette audace qui l'a amené jusqu'à lui. Que je recouvre la vue, Rabouni. Et Jésus répond, écoutez à sa prière, va, ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. Et la Bible nous dit, aussitôt, Bartimée recouvre la vue. Mes amis, une seule parole sortie de la bouche du Christ, qui a rencontré un cœur bien disposé, a fini par susciter la foi dans ce rhéma-là et à permettre à cet homme d'expérimenter la puissance du Seigneur. Il a fait une demande, il a prié, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, je suis aveugle. J'aimerais tant recouvrer la vue. » Et le Seigneur a accédé à sa demande. Il a dit quoi ? « Va, oh gloire à Dieu, va. » Arrêtons-nous un tout petit peu. J'aime beaucoup les détails, vous l'avez remarqué. Et souvent, la différence se trouve dans les détails. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut s'arrêter à chaque mot. Et comme nous avons nos Bibles en français, ayez toujours un dictionnaire à côté. Voyez-vous, pour mieux comprendre ce que la Bible dit. Et ainsi tirer des leçons pour ta vie. Le Seigneur lui dit, va. C'est quel verbe ça? C'est le verbe aller, hein? Oui ou non? Le Seigneur ne lui demande pas d'asseoir. C'eût été facile, hein? Pour Bartimée de s'asseoir parce qu'il est aveugle. Voilà. Pour pouvoir marcher, il a besoin. Mais le Seigneur lui dit, va. Il lui demande de marcher. Il lui demande d'exécuter quelque chose de dynamique, de faire un mouvement. Alors que nous savons que de par sa condition, il ne pouvait aller nulle part sans l'aide des autres, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse le tenir par la main. À cause de son handicap, à cause de sa cécité, cet homme était donc obligé de mendier pour vivre. D'ailleurs, c'est ce... quand le Seigneur passe par là, l'homme était assis au bord de la route en train de mendier. C'était toute sa vie, assis au bord du chemin, jusqu'à ce qu'il entende que Jésus passait par là. Le Seigneur lui demande, mes amis, de bouger, de marcher, alors même qu'il est encore aveugle. Vous voyez, mes amis, et l'aveugle ne se dit pas, mais Seigneur, il avait certainement entendu des histoires sur des gens à qui le Seigneur imposait les mains, ou à d'autres aveugles, qu'il a eu à imposer les mains Il a touché les yeux, oui ou non? Il a touché leur bouche. Pour les sourds, pour les muets, pour les sourds, il a touché leurs oreilles, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'ils touchent, qu'ils fassent la même chose. Mes amis, le Seigneur choisit la manière de nous communiquer le rhéma. C'est à nous d'être extrêmement sages, extrêmement ouverts, mes amis, attentifs, voilà, et réceptifs. En d'autres mots, cet homme reçoit la parole. Tous ceux qui m'ont dit que quand il dit un mot et que tu reçois ce mot-là, eh bien, on finit par expérimenter le miracle. Il m'a dit d'aller, oui ou non? Alors je vais. Et sur le champ, quand il amorce, va. Quand le Seigneur le dit, va, il ne dit pas, reste là. Hein. Donc, nous pouvons déduire que cet aveugle a fait un mouvement en rapport avec la parole du Seigneur, qui a consisté simplement à dire à l'aveugle d'aller. Bartimée, va. Et en même temps, il le rassure, ta foi t'a guéri. Et sur le champ, l'aveugle recouvre la vue. Oh, alléluia. Le Seigneur honore la foi de Bartimée, foi suscitée par le rhéma qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Le Seigneur lui dit, Luc 18, 42, précise bien, le Seigneur honore la foi suscitée en lui par le rhéma et lui dit, recouvre la vue, va, recouvre la vue, ta foi t'a guéri. Formidable. Il n'a pas eu besoin de recourir à toutes sortes de rituels, de gestuels. Voyez-vous, il n'a pas eu besoin d'entonner un chant spécial dans une langue incompréhensible par l'homme pour pouvoir apporter la guérison dans le corps de cet homme. Il a simplement prononcé une parole. Et Bartimée a reçu la parole. Cette parole a suscité la foi. En agissant selon cette parole, il donne l'occasion au Seigneur, eh bien, d'accomplir cette parole en rapport avec la guérison, recouvre la guérison et sur le champ, aussitôt nous dit la Bible, Bartimée recouvre la vue. Donc, en d'autres mots, en obéissant, en s'ouvrant au rhéma du Seigneur, eh bien cet homme a donné l'occasion au Seigneur d'agir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, recouvrer la vue veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un changement de statut, non? Oui ou non? C'est un changement d'état. On est dans un état où on ne peut pas voir, on est privé de vue pour un état où enfin ses yeux s'ouvrent. Eh bien, encore une fois, ce que le Seigneur a fait en honorant la foi de cet homme Bartimée, il a ordonné à la cécité de partir. Il a ordonné à cette maladie qu'il avait privée de vue de partir. Et résultat, ses yeux se sont ouverts. Gloire à Dieu. Qui est capable d'un tel exploit, si ce n'est celui qui nous rassemble ce matin? Si ce n'est celui qui est venu un jour sur cette terre pour donner sa vie, pour notre salut? Si ce n'est celui qui a pris sur lui, mais c'est nos maladies? Voilà pourquoi il nous donne la parole de guérison. Parce que sur la croix, il a pris toutes nos maladies. Alors, mes amis, cherchons à entrer et à rester en contact avec le Seigneur afin qu'il nous donne le rhéma dont nous avons besoin. Afin que nous entendions, mes amis, et recevions une parole qui sort de la bouche du Seigneur. Parole en rapport avec notre situation. C'est seulement cette parole-là qui va susciter la foi dans le miracle, alléluia, qui va nous amener la puissance des paroles du Seigneur, mes amis. Voilà la deuxième leçon. Ces paroles ont la puissance de détruire toutes les œuvres des ténèbres. Et parmi les œuvres des ténèbres, Il y a la maladie, il y a le fait d'être sous l'emprise démoniaque, avec toutes sortes d'implications funestes, destructrices. Ces paroles ont la puissance d'anéantir n'importe quelle force de la nature. Regardez, la mer est agitée. Regardez, le vent souffle de plus en plus. Mais il a suffi qu'il prononce une parole, qu'il dise à Pierre, viens, pour que le miracle s'accomplisse. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Le deuxième cas, très rapidement, c'est le cas de 10 lépreux, dont il est question dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 15, vous lirez ça. Jésus passait aussi. Et son chemin a croisé la route de 10 lépreux. 10 lépreux qui avaient été bannis de la société israélite de par leur état d'impureté. Et là, voyant Jésus, ils ont crié à lui, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Le Seigneur s'arrête, le Seigneur les regarde. Voyez-vous, regard de compassion, regard, mes amis, d'amour, regard de bienveillance. Le Seigneur leur dit, écoutez-moi maintenant, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ah. « Allez vous montrer au sacrificateur. » Comment aller se monter au sacrificateur alors même qu'on est encore lépreux? Alors même, mes amis, qu'on a encore la lèpre, qui était une maladie qui entraînait le bannissement de quelqu'un, d'un individu. Tous ceux qui étaient atteints de lèpre était obligé à la quarantaine. Vous voyez comme aujourd'hui, hein, dans certains pays, à cause, hélas, de ce virus terrible, eh bien, vous restez en quarantaine, vous ne bougez pas. Quelquefois, la police vous surveille. Eh bien, les lépreux étaient aussi obligés. Par la loi de Moïse, vous pouvez lire ça dans Lévitique 13, 14 et tant d'autres passages dans Nombre. Allez vous montrer au sacrificateur. Ce sont les mêmes sacrificateurs qui les avaient bannis, qui les avaient, qui les avaient mis en quarantaine en application de la loi de Moïse. Mais ces disciples, ces lépreux ne se sont pas arrêtés en se tournant vers Jésus pour lui dire, mais maître, vous avez peut-être oublié la loi. Hein? Voyez, quand quelqu'un était banni, était en quarantaine, devant vivre hors de la ville, du village, eh bien, il restait là en attendant l'amélioration de sa situation. Quand il remarquait que quelque chose s'améliorait au niveau des plaies dues à la lèpre, eh bien, il allait alors seulement voir le sacrificateur. Et le sacrificateur faisait une sorte d'évaluation, un diagnostic. Si le sacrificateur eh bien, réaliser qu'en effet, il y a eu amélioration, à ce moment-là, ben, selon le degré d'amélioration, soit il vous demandait de faire encore 7 jours pour confirmer le diagnostic, ou alors il vous déclarait pur, ainsi vous regagnez votre maison, vous retrouviez votre place dans la société. Voilà comment ça se passait. Donc Jésus qui est venu accomplir la loi, savait très bien, connaissait bien cette loi, alléluia. Cependant, qu'est-ce qu'il dit à ces 10 lépreux? Allez vous montrer, il leur donne la parole. Oh, je loue, mes amis, l'esprit d'obéissance de ces 10 lépreux. Ces 10 lépreux n'ont pas, ne se sont pas dit, mais oui, ils ne sont pas regardés les uns les autres en disant, mais enfin, je ne sais pas s'il a oublié la loi, mais c'est la loi qui nous a condamnés. Si nous sommes ici, c'est à cause de la loi, oui ou non? Mais non, tout en étant malade, tout en étant impur, tout en ayant les traces d'une lèpre profonde, ils nous demandent d'aller nous montrer au sacrificateur. Ils n'ont pas eu cette réaction, mes amis, de se mettre à tourner en dérision les propos du Seigneur. Ils ont simplement cru. Et la Bible nous dit, ils se sont mis, ils ont obéi, et tous les 10 se sont mis en route pour aller voir le sacrificateur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il arriva qu'ils furent purifiés alors qu'ils allaient vers voir le sacrificateur. Regardez, quand ils obéissent, ils ne se posent pas de questions. Il a dit, ben nous partons. Nous ne remplissons pas encore les conditions. Mais lui nous demande d'aller. Je ne remplis pas ces conditions. Et pourtant, il m'a dit, va là-bas, va postuler. Voyez-vous, il dit, mais Seigneur, il y a d'autres qui sont plus intelligents, qui sont barrés de toutes sortes de grades ou de titres académiques, qui ont fait telle ou telle autre école doctorale dans les meilleures universités et tout ça. Et tu me demandes à moi, qui viens de l'UNIKIN ou de l'UPC, d'aller. Il a dit, va. Ne regarde pas tout ça. Sa parole est au-dessus des diplômes. Sa parole est au-dessus de n'importe quelle structure administrative. Sa parole est puissante. Mon frère et ma sœur, apprends simplement à obéir. Et les dix sont obéis. Et il se trouve qu'en allant, en se dirigeant vers les sacrificateurs qui devaient voir, quelque chose s'est passé. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Seigneur ne leur a pas donné une foi comme une force magique sur le champ. Oui, ça peut arriver. Mais non. Il leur a dit, allez. C'était à eux d'obéir. En obéissant, sans tenir compte des conséquences. Vous vous rendez compte, hein? Certainement qu'ils ont pu éviter certaines routes en disant, mais écoutez, nous sommes encore impurs, même s'ils nous demandent d'aller voir les sacrificateurs, il ne faut pas que nous croisions les gens, etc. Vous voyez, il leur a dit, allez, en obéissant, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ordonné à la lèpre de partir. Et il se trouve que pendant qu'il partait, eh bien, quelque chose s'est passé. Tout d'un coup, les traces de la lèpre ont disparu. Tout d'un coup, cette maladie terrible, humiliante, est partie. Ils sont arrivés chez les sacrificateurs complètement purs. Et je crois que si les auteurs de la Bible auraient eu le temps de le suivre, ils nous auraient dit la réaction des sacrificateurs. Mais comment expliquer que vous, dix, tout d'un coup vous êtes purifiés? Il n'y a aucune trace. Pour certaines personnes, eh bien c'est petit à petit que la lèpre disparaît. Il lui aurait dit au sacrificateur, nous avons rencontré quelqu'un. Nous avons rencontré celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il nous a ordonné de venir vous voir. Nous avons obéi et résultat, nous sommes purs. Nous n'avons pas fait quelque chose de particulier. Nous n'avons fait qu'obéir. La foi, mes amis, dans la puissance des paroles du Christ. Allez, regardez bien. Ils ont confessé Jésus maître. Mais oui, il est le maître. Il est le grand rabouni. Il est le Messie, oui ou non? Bartimée a confessé qu'il est le fils de David. Tout ça, eh bien, est vrai. Mais la foi du miracle, mes amis, n'est pas une foi dans notre foi en Dieu. Mais c'est une réaction suscitée par le rhéma du Christ. Alléluia. Et enfin, rappelons-nous, nous cheminons tout droit vers la fin de notre série ô combien extraordinaire. Rappelons-nous de l'histoire de Marie, elle est très parlante. Cette histoire qui a déjà fait l'objet de notre méditation dans le cadre de cet enseignement. Nous sommes au chapitre 1er de l'évangile de Luc, à partir du verset 13 jusqu'au verset 38, vous pourriez lire. L'ange Gabriel est envoyé par le Seigneur auprès d'une jeune fille qui s'appelait Marie. Quand l'ange arrive, après l'avoir salué, etc., vous lirez, je vous passe les détails. Il lui dit, voici, c'est clair, hein? Voici. L'ange parle avec assurance. De toute façon, il n'est qu'un canal que le Seigneur utilise pour envoyer son rhéma à Marie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voici. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est le verset 31. La jeune fille réagit. une fille qui craignait Dieu, une fille qui avait un niveau de moralité élevé. Si était une autre fille, elle dit, ah bon, ben quand est-ce que je vais voir mon mari, mon chéri Joseph? Certes, nous sommes encore, fiancés, mais comme tu dis que je vais être en... Non, elle a réagi en fille qui craignait Dieu, qui savait qu'elle ne pouvait pas tripoter ou tripatouiller avec son cher Joseph tant qu'il n'était pas marié. Alors la jeune fille réagit, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Réaction normale, naturelle, mes amis, de quelqu'un qui craint Dieu. Écoutez la réponse de l'ange. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi, donc la conséquence de la descente du Saint-Esprit, la conséquence d'être couvert de la puissance du Très-Haut va avoir comme résultat, et l'ange dit, c'est pourquoi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, donc c'était une parente à Marie, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Voyez-vous, j'aime beaucoup ce passage. Vous savez pourquoi? L'ange ne dit pas « et celle qui était stérile », mais dit « celle qu'on appelait, ce sont les autres qui l'appelaient stérile ». Mais aux yeux de Dieu, elle ne l'était pas. Oh, alléluia! Aux yeux de Dieu, elle ne l'était pas. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour cette femme et son mari, Zacharie. Ils ont demandé un enfant pendant des années. Et la Bible leur rend un grand hommage en disant que c'était un homme et une femme pieux qui craignaient Dieu, qui étaient justes, donc qui croyaient en Dieu, oui ou non. Ils ont prié à Dieu, ils ont dit, toi le Dieu d'Abraham, tu avais visité Sarah, notre ancêtre, et Sarah avait eu un enfant dans sa vieillesse. Oh Dieu, donne-nous un enfant, rien. Alors pour les gens, elle était, mais l'ange, pour le Seigneur, non. C'était pas, le moment n'était pas encore venu. Elle était fertile. Et quand le moment arrive, eh bien, cette femme, malgré sa vieillesse, malgré son âge avancé, va donc concevoir et mettre au monde un enfant. Comme j'ai déjà eu à le parler, je reviens là-dessus. Et là, lui, enfin, elle et son mari Zacharie ont eu un enfant. Dieu les a bénis, oui ou non? Le Seigneur a honoré leur demande. Mais plus que ça, le Seigneur est allé au-delà de leur demande. C'est pourquoi il faut toujours attendre le temps du Seigneur. Ne vous précipitez pas. S'il ne répond pas aujourd'hui, il sait pourquoi. Continue à lui faire confiance. Zacharie et Élisabeth ont attendu longtemps, mais ils étaient loin de s'imaginer que l'enfant qu'ils demandaient, eh bien, serait non seulement leur enfant pour leur grande joie, leur bonheur, mais ça serait aussi le précurseur du Messie. Donc, cet enfant était appelé non seulement à être une bénédiction pour eux, mais pour tout Israël. Et au-delà d'Israël, pour le monde entier. Alléluia. Et Jean-Baptiste est arrivé. Ils ont demandé du bronze au Seigneur, mais le Seigneur leur a donné de l'or. Oh, alléluia. La patience, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Alors, et l'ange d'ajouter, en terminant, disant qu'à rien n'est impossible à Dieu. On a eu à parler de ça au verset 28, 38 de Luc, chapitre 1er. Car aucun réma ne restera, aucun réma de la part de Dieu ne restera impuissant. Tout ce qui sort de la bouche, même si vous êtes stérile aujourd'hui, s'il ordonne, tu vas concevoir. Tout ce qui sort de sa bouche est porteur de vie. Là où il y a la mort, eh bien sa parole apporte la vie. Lazare sort en un instant. Là où il était dans le séjour de mort, Cette parole puissante, cette parole créatrice a traversé l'espace et le temps, est allée dans le séjour des morts. Lazare n'était pas le seul à être dans le séjour des morts. D'autres étaient morts avant lui, mais c'était une parole qui lui était adressée. Cette parole a atteint Lazare. Lazare est sorti, mes amis, du séjour des morts. Et il est revenu dans l'espace et dans le temps. Tout d'un coup, le deuil a été changé en allégresse. Quand il passe quelque part, tout change. Acclamons-le. Revenons à l'histoire de Pierre pour terminer cette série donc de messages sur le Réma. Mes amis, nous l'avons vu un plus d'une fois. Pierre a commencé à couler. Pierre a commencé à s'enfoncer lorsque sa foi a basculé de la fermeté des paroles de Jésus à l'instabilité des circonstances dans lesquelles il se trouvait. En sortant de la barque, par obéissance à cette parole, au réma du Seigneur, il avait les yeux fixés sur le Seigneur, n'est-ce pas? Mais il se trouve qu'alors qu'il avançait, voyant que le vent soufflait de plus en plus fort et par conséquent soulevait des vagues de plus en plus dangereuses, cet homme, eh bien, avec sa foi qui avait bien commencé, cette foi a basculé de la fermeté des paroles du Christ, de la puissance de la parole du Christ, eh bien, pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire à l'instabilité des circonstances qui entouraient la vie de Pierre, dans lesquelles il se trouvait. Au lieu de continuer à regarder au Seigneur, l'initiateur et l'accomplisseur de la foi, peu importe ce qui entre ces deux phases, l'initiation et l'accomplissement, entre les deux, peu importe ce qu'il y a, eh bien, je dois continuer à croire jusqu'à ce que cette foi trouve son plein accomplissement. Oh, alléluia. Et dans le cas de Pierre, son plein accomplissement, c'était de continuer à marcher jusqu'à trouver Jésus là où il était. Pierre s'en est détourné, hélas, et a commencé à regarder à l'obstacle. Et c'est là qu'il va commencer à s'enfoncer. Mes amis, tout est instable autour de nous. Et nous avons besoin de nous reposer sur la parole puissante, sur la parole inébranlable, sur la parole efficace, sur la parole indestructible qui sort de la bouche du Seigneur, le Fils de Dieu. Lui, le soleil levant, dont les rayons sont porteurs de guérison. Lui, le soleil levant, dont les rayons sont porteurs de délivrance, de salut, de résurrection, de restauration, de toutes sortes de bénédictions. Lorsque nous nous appuyons sur ces paroles, alors nous finirons par expérimenter sa puissance. Alléluia et gloire à Dieu. Frères et sœurs, faisons plus confiance à Jésus et sa parole plutôt qu'à nos perceptions naturelles, plutôt qu'à notre intelligence, notre puissance cérébrale, à notre logique cartésienne ou autre. Voyez-vous, quelle expérience merveilleuse pour Pierre que celle d'avoir marché sur les eaux de la mer. Formidable. Oh, j'aurais tant aimé faire un jour cette expérience. Et tout ceci grâce au réma qu'il avait reçu, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Mais, et je terminerai là, mais, il y a un mais, le point culminant, le climax, l'apogée de cette histoire, c'est lorsque les disciples se prosternent devant Jésus et proclament en lui disant, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà l'apogée de l'histoire. Voilà le climax, comme on dit, ou le point culminant. Le tout miracle doit nous conduire à Jésus. Tout miracle doit nous révéler qui il est. Le miracle en lui-même, certes, est une bénédiction pour nous, mais au-delà de la bénédiction est la révélation. Alors que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs qui restent constamment ouverts à lui, afin de recevoir de lui les rémas dont nous avons besoin pour expérimenter le miracle. Acclamons son nom. Merci. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette série d'enseignements. Nous aurions tant aimé avoir encore d'autres séances, mais c'est toi qui conduis. Pour le moment, nous nous arrêtons là. Mais cela ne veut pas dire que tu t'arrêtes là. Cela ne veut pas dire que pour tes enfants ici présents, mais pour tant d'autres qui sont en communion avec nous via, Seigneur, la télévision, la radio, pour eux, Seigneur, ce n'est pas encore fini. Oh, ma prière est que tu les amènes à aller au-delà, où moi je les ai amenés par ta grâce. Oh, merci pour tout. Merci, Seigneur.